Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr.
Cette émission vous est présentée par Biform Santé, laboratoire européen indépendant de compléments alimentaires Clean Label, alliant expertise scientifique, actifs hautement biodisponibles et formulations sans additifs pour une efficacité cliniquement démontrée.
La révolution microbiote. Véronique Lies sur Nutri Radio.
Bonjour tout le monde, merci à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr pour y retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et puis tant qu'à faire, rester à la pointe de la santé intégrative. On retrouve aujourd'hui Véronique Lies dans Révolution Microbiote. Bonjour Véronique.
Bonjour Ambeline, bonjour tout le monde.
Vous allez bien, vous êtes en forme ?
Je suis en super forme.
Parfait, on remercie notre partenaire Biform Santé, engagé dans le développement de compléments alimentaires Clean Label, formulés sans additifs artificiels et avec des actifs naturels, fabriqués en Europe. Alors, Véronique, vous aviez envie de nous parler d'une étude très importante qui est sortie récemment à propos de la maladie de Parkinson.
Mais oui, c'est une équipe de chercheurs qui a publié ce qu'on peut considérer clairement comme la plus grande synthèse mondiale à ce jour, rien que ça, sur microbiote et Parkinson, analysée avec des méthodes de type intelligence artificielle, donc quand même des choses assez avancées. Et donc, cette étude, elle est parue en 2025 dans Nature Communication et elle est vraiment très intéressante.
Et alors pourquoi parler d'intestin et de microbiote quand on parle de maladie de Parkinson ?
Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que dans l'esprit en général de la population, bah, la maladie de Parkinson, c'est les tremblements, etc. Et en fait, ce n'est pas que ça. Il existe toute une série de symptômes que l'on dit non moteurs. Par exemple, la constipation, les troubles du transit et parfois aussi de l'inflammation digestive. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série de troubles digestifs qui sont associés à cette maladie. Et on observe que certains symptômes digestifs peuvent vraiment apparaître longtemps avant les signes moteurs chez une partie de ces personnes. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait émerger l'idée que ce fameux axe intestin-cerveau dont on parle beaucoup et le microbiote, eh bien, pourrait très clairement être une piste très intéressante de compréhension et même un jour un outil pour faire de la prévention très précoce.
On entend microbiote égale biomarqueur. Est-ce qu'on peut déjà dépister Parkinson avec un test de sel ?
Alors non, clairement pas. On en a parlé la semaine dernière, on a bien vu que ces tests, ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais on ne peut pas encore aujourd'hui dire « attention, ça égale ça ». On est au stade plutôt de signaux de recherche intéressants, mais pas encore de tests cliniques véritablement validés. Et cette grande étude là dont on parle, qui vient de sortir, ou en tout cas en 2025, elle est très très claire là-dessus. Le signal existe, mais pour l'instant, il est fragile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fragile dès qu'on change de pays, de méthode et de population.
C'est quoi précisément alors cette grande étude ?
Alors, cette grande étude, ce qu'elle a d'intéressant, déjà, c'est une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, c'est une synthèse de plusieurs études. Donc, ça veut dire que c'est le plus haut degré de fiabilité. Donc, les chercheurs ont rassemblé les données qu'ils ont trouvées dans 22 études ici, et ça comportait 11 pays différents. Donc, ils ont analysé pratiquement 4500 échantillons de sel, non seulement de personnes qui avaient la maladie de Parkinson, mais aussi de personnes qui ne l'avaient pas, donc des témoins. Et ils ont utilisé les deux grands types d'analyses dont j'ai parlé la semaine dernière, le séquençage à ARN16S. Donc, là, à ce moment-là, on lit vraiment un marqueur génétique bactérien pour identifier les groupes de bactéries. Mais ils ont aussi utilisé la méthode shotgun, où là, on lit plus de matériel génétique et ça donne une vision plus fine des espèces et aussi, et c'est là que c'est vraiment intéressant, de certaines fonctions.
Il parle aussi d'intelligence artificielle, ça apporte quoi, l'IA ?
Alors, l'IA, ça révolutionne tout. Donc, ça permet vraiment d'utiliser des modèles de classification pour répondre à toute une série de questions, et notamment, est-ce que le profil de microbiote permet de distinguer de façon statistiquement correcte les personnes qui ont la maladie de Parkinson versus les personnes qui ne l'ont pas. Et donc, ils ont pu avancer par rapport à des questions comme ça. Et donc, ils vont mesurer la performance avec un indicateur qui s'appelle l'air sous la courbe. C'est un indicateur qui est très, très utilisé en médecine et dans les études statistiques. Et donc, ici, en l'occurrence, le score était de 0,719, 1 étant le maximum. Et donc, il y avait quand même un signal net, mais pas encore parfait.
Bah, c'est déjà très bien quand même. Et le fait d'inclure plusieurs pays, ça apporte quoi ?
Mais en fait, c'est ça qui a été assez étonnant. C'est que quand on prend, en tout cas quand eux ont pris un modèle dans une étude et puis qu'on le teste sur une autre, donc ça veut dire avec une autre cohorte, donc avec d'autres gens, on va dire, eh bien ce fameux score de performance, il tombe à une moyenne de 0,61.
Ah oui.
Donc ça veut dire que le signal, entre guillemets, Parkinson, eh bien il se mélange à d'autres éléments comme l'alimentation, la culture, encore une fois les médicaments, la durée du transit, la méthodologie du laboratoire. Et donc, en fait, ça montre bien que d'un pays à l'autre, ça va varier et que ça dépend vraiment aussi de la personne, de l'environnement, du labo qui a fait le test. Et alors, ce qui est évidemment très utile, c'est que quand il mélange plusieurs études, à ce moment-là, le score de performance remonte et devient plus intéressant parce qu'alors, il est plus généralisable.
Mais qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en avant finalement ? Il existe une signature microbiote Parkinson. S'il fallait retenir une tendance robuste, ce serait quoi ?
Alors, la plus grosse tendance, c'est vraiment la diminution dans le microbiote de bactéries qui sont en général associées à la fermentation des fibres et à la production d'acides gras à chaîne courte, et notamment, évidemment, le fameux butyrate dont je parle tout le temps. Et donc, on sait aujourd'hui que ces acides gras à chaîne courte, ils contribuent à l'intégrité de la muqueuse intestinale et ils ont notamment des effets épigénétiques, ils ont des effets sur l'inflammation. Et donc, on voit bien que ces bactéries-là qui produisent donc du butyrate, elles sont diminuées.
Quelles bactéries, par exemple ?
Alors, l'étude montre une baisse l'acnospiracée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des roséburias, c'est peut-être des noms qu'on entend plus, des blotias, on entend moins, mais fusicatenibactère qui fait aussi partie de ces groupes-là. Et puis, elle montre aussi une baisse, et là, c'est très consistant, donc on retrouve ça beaucoup, du fameux Fecalibacterium, dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui est un des grands producteurs de butyrate.
On fait une petite pause, Véronique, et on revient juste après.
Et si votre santé commençait dans votre ventre? Le microbiote orchestre énergie, immunité, équilibre. Biform Santé l'a compris. Laboratoire à taille humaine, sans additifs, clean label absolu. Des formules pures, biodisponibles, pensées par des scientifiques passionnés. Gélules végétales, actifs traçables, efficacité prouvée. Biform Santé, la qualité avant tout. Quand le microbiote respire, tout le corps s'aligne. Pour celles et ceux qui veulent prendre soin durablement de leur microbiote, naturellement, en toute confiance, chaque jour, simplement, maintenant. Rendez-vous sur biform-santé.com.
La révolution microbiote. Véronique Lies sur Nutri Radio.
De retour sur Nutri Radio, merci beaucoup de votre fidélité. Merci également à notre partenaire Biform Santé, engagé dans le développement de compléments alimentaires Clean Label, formulés sans additifs artificiels, avec des actifs naturels et fabriqués en Europe. Nous sommes toujours avec Véronique Lies et on parle des bactéries et de l'impact aussi que ça a sur la maladie de Parkinson. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour la personne? On parlait des bactéries, Véronique.
Alors, donc ce qu'il faut surtout éviter, c'est de penser, bah tiens, il y a un test, j'ai pas cette bactérie, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai la maladie de Parkinson. On a bien vu que c'est pas du tout le cas, et donc ça veut pas dire qu'il manque telle bactérie, donc on a la maladie de Parkinson, certainement pas. Donc, on a beaucoup parlé déjà des bactéries productrices de butyrate qui sont absentes dans d'autres maladies. Donc, il y a vraiment plusieurs pathologies dans lesquelles on retrouve ces caractéristiques-là. Mais quand même, les profils qu'ils ont mis en avant, ça soutient l'idée qu'une partie des personnes avec la maladie de Parkinson, eh bien, ont un microbiote qui est moins orienté vers la fermentation de fibres complexes. Et donc, potentiellement, un terrain plus favorable à un transit ralenti, une barrière intestinale plus fragile, une inflammation locale. Et bien sûr, comme toujours, dans des méta-analyses comme ça, les auteurs restent évidemment prudents. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a des gènes qu'on a la preuve que des métabolites sont produits. Et d'ailleurs, ça montre bien tout l'intérêt des études qui mesurent les métabolites. Parce qu'on parle beaucoup de composition de microbiote, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'évaluer la fonction du microbiote. Et ça se fait en analysant les métabolites, et notamment le butyrate.
Et pour d'autres bactéries, alors est-ce que ça augmente?
Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bactéries qui diminuent, mais ils ont retrouvé un enrichissement de bactéries qui produisent de l'acide lactique et notamment, et ça peut paraître étonnant, des lactobacillus, des bifidobactérium et on a aussi un genre qui est Ruthenibacterium qui ressort particulièrement enrichi.
Mais lactobacillus et bifidobactérium, j'espère que je les prononce bien, on les voit souvent comme positifs. Pourquoi ils montent dans Parkinson?
Alors, c'est là qu'il faut justement ne pas s'emballer, hein, parce que vous imaginez quelqu'un, il prend des probiotiques avec des bifidobactéries, des lactobacilles, il fait un test, il fait « Oula, j'ai la maladie de Parkinson ». Donc, c'est évidemment pas du tout le cas. Donc, quand on a comme ça des genres, des familles, des espèces qui augmentent, ça veut pas dire que c'est la cause ou que c'est mauvais. Ça peut être un reflet d'un environnement intestinal différent, un transit qui a été changé, d'une alimentation qui a été modifiée, ça peut être un reflet de médicaments, d'inflammation. Et donc, c'est vrai que lactobacillus bifidobacterium, c'est plutôt considéré comme des bactéries commensales, mais il faut juste rappeler que certaines espèces, eh bien, même là, peuvent être favorisées dans certains contextes inflammatoires. Donc, il faut vraiment avoir un profil global. Hein, puisqu'on a vu, il y en a qui sont enrichis, il y en a qui sont diminués. Et donc, on parle vraiment de signature. Et cette signature, ce n'est pas une bactérie, c'est des profils complets. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Donc, ce n'est pas, j'ai telle bactérie ou telle signature, j'ai la maladie. C'est plutôt une sorte de statistique qu'il faut intégrer.
Est-ce qu'on a une idée, au-delà des noms de bactéries, de ce qui change en termes de fonction ?
Oui, donc en termes de fonction, on parle surtout de deux fonctions modifiées, donc une diminution de tout ce qui est dégradation des sucres complexes. Et donc, dans l'étude, on retrouve vraiment ça très fortement mis en avant avec la dégradation de polysaccharides et de sucres qui est vraiment très diminuée chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Donc, c'est évidemment très cohérent avec le profil moins de fermentation de fibres. Mais on retrouve aussi une augmentation de fonctions qui sont liées à l'interaction entre les micro-organismes et l'hôte. Et donc, on voit par exemple un enrichissement de gènes qui sont liés à ce qu'on appelle des systèmes de sécrétion bactérien. Et donc, de façon un peu plus simple, ça va dans le sens d'un microbiote qui serait potentiellement plus agressif ou plus interactionnel, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut vraiment dire, mais en tout cas un microbiote plus agressif et qui va créer plus d'interactions dans certains contextes. Donc en gros, vous avez un microbiote qui ressemble à celui de votre voisin, mais le vôtre, en fait, il est plus agressif.
D'accord. Il y a un passage très intéressant, c'est celui sur des solvants et pesticides. Qu'est-ce que l'étude dit exactement ?
Alors oui, ça c'est vraiment un passage qui est très intéressant parce que les chercheurs ont montré un enrichissement de voies microbiennes liées au métabolisme de certains xénobiotiques. Alors les xénobiotiques, c'est toutes ces substances chimiques qui nous sont étrangères et c'est par exemple des solvants, des herbicides, des pesticides. Hein, on en parle beaucoup de toutes ces substances soi-disant anodines et qui en fait ne le sont pas. Et donc, il rappelle que l'exposition à ces substances est un facteur de risque non génétique. Et donc, on ne parle pas ici de nutriments, de macronutriments. On parle ici plutôt d'environnement. Et très clairement, il semblerait que les pesticides jouent un rôle majeur et que donc certaines personnes aient des voies microbiennes modifiées en lien donc avec le métabolisme de ces herbicides ou pesticides.
Comme quoi, par exemple ?
Alors, dans l'étude, il cite un solvant qui s'appelle le TCE, le trichloroéthylène, et il montre qu'il y a vraiment un enrichissement de gènes pouvant le convertir vers d'autres produits qui peuvent être assez toxiques. Et donc, il cite aussi des gènes liés à la dégradation d'un autre herbicide comme l'atrazine.
Et d'un point de vue santé publique, on fait quoi de tout ça ?
On arrête de respirer. Non, écoutez, on est prudent, sans devenir complètement fou, mais ça veut dire que si dans votre métier, vous utilisez beaucoup de solvants, des dégraissants, des décapants, des peintures, il faut quand même bien aérer, ou si vous avez peint chez vous, pensez à quand même bien aérer, il faut utiliser des gants, des masques, ça fait partie des conseils de bon sens. Après, pour les pesticides, c'est sûr que c'est mieux d'envisager de manger bio, et si vous en utilisez vous-même d'un point de vue domestique, quand même essayez d'en limiter l'usage. Il y a d'autres alternatives plus mécaniques, on va dire, qui existent. Et donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas de devenir complètement fou. Il faut rester raisonnable. On ne dit pas votre microbiote fait que vous êtes protégé ou que vous êtes condamné. Mais bon, il ouvre vraiment cette question par rapport au rôle du microbiote sur la modulation de la toxicité qui pourrait donc varier d'une personne à l'autre.
Et si on doit donner un conseil concret, utile aux personnes concernées, on commence par quoi ?
En fait, on retrouve notamment un symptôme très fréquent dans la maladie de Parkinson qui est la constipation et qui pourrait être lié à la maladie, mais aussi à l'efficacité des traitements. Alors évidemment, la constipation, ça influence le confort, le sommeil et donc même parfois l'efficacité des médicaments si on n'a pas une bonne absorption, par exemple. Alors, ce n'est pas la cause de la maladie, parce que évidemment, sinon, il y a beaucoup de gens qui s'inquiéteraient.
Et alors, traiter la constipation, ça sert à quoi si ça ne diminue pas le risque ?
Alors, traiter la constipation, ça va pas, on ne sait pas, mais a priori, ça ne va pas diminuer le risque, évidemment, de développer une maladie de Parkinson. Mais quand même, c'est utile parce que les personnes qui ont déjà la maladie, on sait que le fait de traiter la constipation, ça va améliorer leur qualité de vie. Donc, ils auront moins mal au ventre, ils dorment mieux, ils sont plus confortables. Et qu'en plus, ça va influencer l'efficacité, on va dire, des traitements qu'ils prennent. Et puis, chez les personnes qui n'ont pas de diagnostic de maladie de Parkinson, eh bien, on peut quand même se dire que si cette constipation, elle est chronique, elle est durable, et qu'en plus, il y a d'autres signes non moteurs plusieurs années, parfois avant, voilà, comme une perte d'odorat inexpliquée, des troubles du sommeil avec des gestes importants pendant les rêves, des malaises parfois au lever, c'est quand même utile. Ce n'est pas pour ça qu'on a la maladie de Parkinson, mais quand même utile d'aller en parler avec son médecin et faire le point. Évidemment, la constipation, il y en a beaucoup dans la population, donc on ne va évidemment pas dramatiser. C'est à mettre dans un certain contexte, mais ça peut, plusieurs années avant, parfois, bien permettre peut-être une attention un peu plus soutenue.
Mais on entend dire que la constipation peut précéder Parkinson de très longtemps. Est-ce que ça, c'est vrai?
Mais oui, c'est documenté dans certaines études et c'est assez incroyable. Mais je ne voudrais certainement pas alerter tout le monde parce que Dieu sait que des personnes constipées, il y en a beaucoup et on sait très bien qu'elles ne sont pas atteintes nécessairement de la maladie de Parkinson. Mais la constipation peut précéder le diagnostic de plus de 10 ans chez certaines personnes. Donc voilà, c'est juste un petit lien à connaître. Ça me permet de dire que la constipation, c'est jamais anodin, même pour l'humeur, même pour le sommeil, pour plein d'autres choses. Donc, c'est toujours à prendre en charge. Donc, il n'y a certainement pas ce message constipation égale futur Parkinson, parce que fatalement, y aurait vraiment beaucoup de personnes atteintes, ce qui n'est pas le cas. Mais ça veut dire que quand on prend des grandes cohortes, eh bien, la constipation est associée à un risque plus élevé. C'est une sorte de petit signal statistique. Ce n'est pas une prédiction individuelle, puisque je rappelle, il y a 1000 causes de constipation et qui n'ont rien à voir avec Parkinson.
Donc la constipation, c'est plus une conséquence qu'une cause.
Oui, on peut dire ça. Donc ça peut être un signe précoce, mais ce n'est pas pour ça que voilà, il n'y a pas de lien de causalité qui a été montré. Et voilà, je rappelle qu'il y a plein de causes banales à la constipation.
Et alors, les probiotiques, ça marche dans Parkinson ou pas?
Alors, certainement pas pour traiter, vous pensez bien, hein, ça se saurait depuis longtemps. Mais par contre, si on considère l'objectif prise en charge de la constipation, on a quand même plusieurs essais cliniques et même une méta-analyse d'ailleurs, qui a conclu qu'il y avait une amélioration des paramètres liés à la constipation, de la qualité de vie par rapport à un placebo. Donc, évidemment, c'est souche dépendant, ça dépend des protocoles, mais c'est une option intéressante.
Et si on doit résumer, alors, Véronique?
Vous aimez bien ça, hein, on
dit j'aime beaucoup.
Résumer. Alors, je dirais que y a cette grande méta-analyse qui montre qu'il existe des profils de microbiote associés à la maladie de Parkinson, mais que ce n'est pas encore suffisamment stable pour vraiment en faire un test de diagnostic utilisable partout. Ce qu'on retrouve comme profil vraiment le plus robuste, c'est une diminution de certains groupes liés à la fermentation des fibres, comme Roseburia ou Fecalibacterium, une diminution des fonctions liées à la dégradation de sucre complexe, et à l'inverse, un enrichissement de certains groupes lactiques, comme les Halystypes, par exemple, ou des Enterococcus, des Porphyromonas. Et donc, ces profils pourraient avoir aussi un lien dans le métabolisme de certains xénobiotiques, dont des pesticides et des solvants. Et en pratique, aujourd'hui, l'angle le plus utile pour les personnes concernées, c'est vraiment d'améliorer le confort digestif et notamment la constipation. c'est d'améliorer la qualité de vie avec des stratégies simples, une bonne hydratation, des fibres, une activité physique et certains prébiotiques en complément bien choisis. Et pourquoi pas des probiotiques qui peuvent aussi être un outil intéressant contre la constipation, mais sans promesse sur la maladie elle-même.
Merci beaucoup Véronique pour toutes ces infos. L'émission est à retrouver sur nutriradio.fr. N'hésitez pas, à bientôt.
À très bientôt.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.